Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir à tous. À la une ce soir, Édouard Philippe dans le studio de France Inter. Le Premier ministre répond à toutes vos questions. Téléphone sonne spécial, Fabienne, jusqu'à 21h.
Absolument, plus que jamais, c'est votre émission. Ce soir, vous aurez le Premier ministre pour lui poser toutes les questions que vous voulez. Téléphone sonne donc, vous l'avez dit, XXL. Les thèmes qui font vivre le grand débat, c'est ce que vous nous dites dans ce que vous nous avez déjà envoyé. Fiscalité, citoyenneté, services publics, c'est à vous de faire le programme. Vous avez commencé à appeler, vous connaissez le chemin à faire, franceinter.fr. Vous le connaissez aussi vers le Facebook Live et c'est donc à vous de jouer.
Et on parlera aussi pouvoir d'achat, ces produits de grande consommation qui vont augmenter vendredi. Pâte à tartiner, boissons gazeuses, les prix vont prendre près de 10% pour aider les agriculteurs. On vous expliquera tout cela. Dans le grand débat encore, la nostalgie du député-maire, on peut discuter du non-cumul des mandats, dit le ministre Marc Fesneau. Les gilets jaunes blessés qui réclament l'interdiction des LBD et des grenades de désencerclement. 7 ans de prison requis contre les deux policiers accusés de viol au 36. La parole à la défense, verdict demain. Le camp Guaido dans la rue au Venezuela pour rallier l'armée. Nous serons en direct de Caracas. Et puis le temps, la neige encore sur un grand quart nord-est. C'est donc le pari du gouvernement avec la loi alimentation adoptée en octobre, rééquilibrer les relations entre distributeurs, industriels et agriculteurs pour que ces producteurs agricoles aient un revenu digne. Et tout cela a une conséquence, le ministre le reconnaît. Les prix des produits de grande marque vont augmenter à partir de vendredi 1er février. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir.
À quoi faut-il s'attendre, Philippe, dans nos caddies?
Eh bien, une augmentation moyenne de 6,3% du prix des produits de grande marque. Cela pourrait même monter jusqu'à 9,3%, c'est le record pour les céréales Chocapic, 8,9% pour une bouteille de Ricard ou encore 8,8% pour un camembert président. Alors pour expliquer ces hausses, c'est assez simple, hein, vous l'avez dit, dans la loi alimentation, l'idée c'était que la grande distribution rogne sur ses marges et redistribue une partie de l'argent aux producteurs. Et en échange, pour faire passer la pilule, si je puis dire, auprès des grandes surfaces, il y a eu deux petites subtilités dans cette loi. Tout d'abord, la hausse de 10% du seuil des reventes à perte, ce qui de fait va se traduire par une augmentation des prix. Et puis, la fin des promotions, des rabais supérieurs à 34%. Donc, terminer les promos du genre une tablette de chocolat achetée, une offerte, parce que ça, c'est une remise de 50%. Alors, tout ça va se traduire par une baisse du pouvoir d'achat, bien sûr. Et la distribution qui a souffert de l'effet gilet jaune ces derniers mois ne peut se le permettre. D'où une petite astuce mise en place par une enseigne, explication d'Élodie Pertuiseau du groupe Carrefour.
Un pot de Nutella, en fait, la loi nous impose, comme à tous les distributeurs d'ailleurs, de respecter un certain niveau de prix. Son prix va peut-être augmenter de 30 ou 35 centimes pour les clients, le prix facial. Eh bien nous, on va mettre une prime, qu'on appelle la prime grande marque. Donc le client qui va acheter le pot de Nutella avec sa carte de fidélité, il aura sur son compte fidélité Carrefour, eh bien 30 centimes, 30 centimes de prime.
Autre solution, se rabattre sur les produits en marque de distributeurs aux couleurs des grandes surfaces, dont les prix, eux, ne devraient pas bouger.
Philippe Lefebvre, alors ceux qui doivent profiter de la mesure, les agriculteurs sont satisfaits mais surtout prudents. Ils ont du mal à croire notamment qu'ils puissent fixer eux-mêmes les prix de leurs produits en fonction de leur coût de production. Daniel Sauvêtre est le président de l'Association nationale des producteurs de pommes et de poires et il est au téléphone avec Catherine Berchatsky.
Non, ça, je n'y crois vraiment pas beaucoup. Le prix continuera de se former par la confrontation de l'offre et de la demande et les opérateurs tomberont d'accord sur un prix et la loi n'amène aucun rapport de force favorable à la production par rapport à avant. C'est toujours au producteur de se battre pour faire valoir la valeur de son produit, de la qualité, mais la loi ne l'aidera en rien. Et donc qu'on lui dise aujourd'hui par la loi que c'est à lui de connaître son prix de revient de manière à faire la démarche auprès de son acheteur pour revendiquer ce prix de revient, c'est une figure de style, mais ça ne change pas fondamentalement le fait qu'au bout du compte, l'acheteur n'est pas obligé de dire oui si le prix qu'on lui propose est trop élevé. Si jamais l'acheteur il préfère importer plutôt que d'acheter le produit local, on ne change pas du tout la nature de la relation entre le producteur et son acheteur.
Ce qui est sûr, c'est que cette hausse des prix des produits de grande consommation ne va pas plaire aux gilets jaunes qui parlent beaucoup pouvoir d'achat dans leurs revendications. Alors qu'on apprend qu'Emmanuel Macron annule son déplacement prévu demain dans le cadre du grand débat, le quatrième depuis le 15 janvier, dont on ne connaissait pas le lieu, l'Élysée précise qu'il sera remplacé par des réunions de travail. Grand débat qui pourrait aussi s'ouvrir à la question du cumul des mandats pour les parlementaires. La loi sur le non-cumul date de 2014 sous François Hollande, mais le chef de l'État se dit prêt à en discuter, le ministre des Relations avec le Parlement aussi. Alors évidemment, à l'Assemblée, Maxence Lambrecq, on ne parlait que de cela cet après-midi avec la droite à l'offensive.
On se croirait revenu 5 ans en arrière. Les députés de droite reviennent avec les mêmes arguments, Julien Aubert et Philippe Gosselin.
En réalité, on a inventé un Parlement hors sol, supprimé la représentation des territoires ruraux.
L'école des mandats locaux, c'est l'école du quotidien. Et peut-être que si aujourd'hui, on avait un peu plus en tête cette proximité, parce qu'elle est importante, cette proximité, on aurait un peu moins de doutes de la part de nos concitoyens. Je crois qu'il faut avoir des élus à portée d'engueulade.
C'est ce que la droite a entendu sur les ronds-points et les amis de Marine Le Pen y sont sensibles. Le porte-parole du RN, Sébastien Chenu.
Moi, je ne suis pas un grand fan du cumul des mandats, mais effectivement, je crois que dans les communes de moins de 20 000 habitants, la question peut légitimement se poser.
Ce qui est frappant, c'est que les marcheurs ne ferment pas non plus la porte. Guillaume Chiche et Sacha Houlier modèrent leurs propos.
À titre personnel, je pense qu'on ne doit pas réouvrir le cumul des mandats, mais le sujet a le mérite d'être débattu.
La seule question qui mérite d'être posée, c'est celle de l'engagement des maires des toutes petites communes. On peut regarder les seuils, est-ce que c'est 1 000, est-ce que c'est 1 500, est-ce que c'est 3 500, peu importe.
Cette question prouve que les lignes bougent, que ce pourrait être une contrepartie à la baisse du nombre de parlementaires, car la majorité réalise à quel point il est difficile de trouver des candidats dans les petites communes. Mais attention, prévient déjà un ministre, cumul des mandats ne rime pas avec cumul des indemnités.
Maxence Lambrec à l'Assemblée. L'INSEE annonce de son côté que l'économie a mieux résisté que prévu à la crise des gilets jaunes. Une croissance de 0,3% au dernier trimestre 2018, 1,5% sur l'année. Mais le ralentissement devrait se poursuivre cette année d'après les économistes qui tablent plutôt sur 1,3%, là où Bercy espère un 7%. Le pouvoir d'achat, le cumul des mandats, vous parlerez de tout cela avec Édouard Philippe à partir de 19h20, Fabienne.
Absolument, 01 45 24 7000. Facebook Live aussi pour vos réactions. On a 2 heures devant nous, donc vous avez largement le temps. On essaiera de faire de la place pour tout le monde, Sébastien.
Les gilets jaunes, ce sont aussi les rendez-vous du samedi et les violences qui vont avec, les commerces saccagés, les blessés de chaque côté. Dans les rangs des manifestants, ce sont notamment les lanceurs de balles de défense qui sont dénoncés. Bonsoir Rémi Brancato.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Plusieurs personnes touchées au visage et aux pieds par ces armes se sont retrouvées cet après-midi pour réclamer leur interdiction.
3 blessés se sont présentés devant la presse tout à l'heure, gilets jaunes sur les épaules dans les locaux de la Ligue des droits de l'homme ici à Paris. Franck, 20 ans, a perdu un œil après un tir de LBD, de lanceur de balles de défense à Paris début décembre.
Quand je me suis réveillé de l'opération, je me suis dit c'est pas moi, ça peut pas être moi. Je n'ose plus me regarder dans une glace. Pour moi, ma vie, elle est finie. C'est honteux de faire ça à des gens pacifiques, des gens qui veulent s'exprimer.
Alors les gilets jaunes ont décidé de mettre en avant ces cas de blessés graves. Éric Drouet est d'ailleurs venu les soutenir cet après-midi, cette figure du mouvement. Son ami Jérôme Rodriguez a été blessé samedi dernier, place de la Bastille. Il a longuement pris la parole devant la presse.
Je suis devenu une affaire d'État qui met la lumière sur l'ensemble des blessés. Je ne veux pas être un symbole. De par la médiatisation de ma personne, j'ai quand même énormément de soutien. Mais j'ai plein d'autres blessés avec qui je suis en contact, qui eux souffrent énormément. De perdre un œil, de perdre un pied, de perdre une main. Aujourd'hui, ces gens-là ont perdu leur travail, ont perdu toute intégrité.
L'origine de sa blessure est encore indéterminée. Pour les gilets jaunes, l'usage du LBD, des grenades de désencerclement ou des grenades lacrymogènes qui ont blessé des manifestants aux jambes ou aux mains doit être tout simplement interdit. La Ligue des droits de l'homme défend d'ailleurs aujourd'hui l'interdiction du LBD devant le Conseil d'État. Son avocat, Ari Halimi, était présent.
Le mouvement des gilets jaunes a vu rendre et éclater un usage particulièrement abusif, systémique, des armes. Ces armes sont du matériel de guerre. On utilise du matériel de guerre contre des civils manifestants.
Et la manifestation de samedi à Paris, déclarée en préfecture, sera dédiée à ces blessés graves du mouvement des gilets jaunes.
Rémi Brancato en direct des locaux de la Ligue des droits de l'homme à Paris avec Romain Luquiens. Merci à tous les deux. Christophe Détinger, lui, reste en détention provisoire. La cour d'appel refuse la remise en liberté du boxeur de gendarmes sur la passerelle Sangor début janvier. Son procès est prévu dans 15 jours.
Le procès aux assises des 2 policiers accusés de viol au 36 quai des Orfèvres touche à sa fin.
Oui, l'avocat général demande 7 ans de prison contre les 2 anciens fonctionnaires de la prestigieuse BRI, accusés de viol par une touriste canadienne il y a 5 ans dans les anciens locaux de la PJ parisienne. La parole était cet après-midi à la Défense. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
Qui depuis le début, Laurélie, cherche à mettre en doute celle de la plaignante.
Oui, une plaignante décrite par maître Sébastien Chapira comme une victime sanctuarisée dont on ne pourrait pas questionner la parole. C'est pourtant l'exercice auquel se livrent tour à tour les 3 avocats des policiers. En appuyant d'abord sur certains témoignages, ceux d'une amie, une serveuse, un avocat qui contredisent la jeune femme, souvent sur des éléments périphériques. Sauf que si elle ment sur des détails, est-ce qu'elle ne ment pas sur tout le reste? C'est l'idée en tout cas qu'essaye d'instiller la défense. Marion Grégoire, conseil de l'un des 2 gradés, balaie méthodiquement les éléments objectifs mis en avant par l'accusation, notamment cet examen médical où il est question sur le corps de la Canadienne des raflures millimétriques, de quelques ecchymoses, d'une lésion gynécologique, pas vaginale, mais rien qui, dit-elle, correspondrait à la violence décrite par Emily Spanton. Quant aux troubles post-traumatiques constatés par des experts, on ne peut pas établir ici de lien de causalité, martèle l'avocate. Une somme d'incertitude n'a jamais fait une certitude, résume ensuite Anne-Laure Compoint. Et dans cette histoire en pointillé, dit-elle, le doute doit profiter à l'accusé. Dans la salle d'audience, la place d'Emily Spanton est restée vide tout du long. Aux Assises de Paris, Laurélie Carré, France Inter.
Et le verdict est attendu demain. Merci Laurélie. Ils disent détester les journalistes. Un blog d'ultra-gauche lié à la mouvance anarcho-libertaire se félicite de l'incendie criminel contre France Bleu Isère. C'était dans la nuit de dimanche à lundi à Grenoble. Le message publié hier ne revendique pas vraiment. D'après le procureur, le texte dénonce les industriels d'hypnose collective et il se félicite d'avoir fait couler l'essence dans leurs locaux pour les incendier. Un homme ouvre le feu en pleine rue cet après-midi à Bastia avant de se retrancher chez lui dans le quartier de Montessoro dans le sud de la ville où il est toujours. Ses motivations ne sont pas claires. Il y a un mort et 5 blessés. Et puis un pêcheur tué par un requin ce matin à La Réunion. L'homme de 41 ans venait récupérer des nasses à poissons sur la commune de Sainte-Rose à l'est de l'île. Il était à 5 mètres du bord quand le squale lui a arraché la jambe gauche. Les secours n'ont pas réussi à le ranimer.
Il est 19h presque 12 sur France Inter. C'est sa première interview depuis son arrestation au Japon.
Carlos Ghosn a répondu au quotidien économique japonais Nikkei depuis la prison de Tokyo où il est détenu depuis 2 mois et demi. Seulement 20 minutes d'entretien. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
Mais l'ancien PDG de Renault est très offensif.
Offensif, c'est le moins qu'on puisse dire. Carlos Ghosn s'estime victime d'un complot, d'une trahison, mot très fort. Accusation que réfute à nouveau d'ailleurs Nissan aujourd'hui. Ai-je vraiment fait quelque chose d'inapproprié? Si oui, si tout ça était illégal, alors pourquoi personne toutes ces années ne m'a rien dit? À écouter Carlos Ghosn, à le lire. Les Japonais n'avaient d'autre but que de se débarrasser de lui, coûte que coûte. Déni ou pas, Ghosn se dit certain, que les dirigeants de Nissan voulaient lui faire payer le dernier projet qu'il s'apprêtait à lancer, celui de rapprocher un peu plus Renault, Nissan et le troisième, Mitsubishi. Depuis 2 mois et demi, depuis son arrestation fin novembre, les avocats de Carlos Ghosn ont déposé plusieurs demandes pour obtenir la libération de leurs clients. Toutes refusées ces demandes, la justice craint qu'il ne profite d'être dehors pour détruire des preuves ou s'enfuir du Japon. Ghosn lui promet qu'il ne s'échappera pas, non. Il se défendra, simplement, il précise, les preuves sont chez Nissan et Nissan interdit aux employés de lui parler.
Maxime Debs, son syndicat a laissé la première place à la CFDT, mais Philippe Martinez est candidat à un second mandat à la tête de la CGT. Il est pour l'heure le seul. L'élection est prévue au congrès de Dijon mi-mai. Lui remet son costume de militant écolo. Nicolas Hulot devient président d'honneur de la fondation qu'il a fondée et qui porte de nouveau son nom. Après sa démission du ministère de la Transition écologique, il veut être un trait d'union modeste pour valoriser les initiatives citoyennes.
L'opposition de nouveau dans la rue au Venezuela.
C'est l'occasion de faire le point sur le rapport de force entre le président Nicolas Maduro, poussé vers la sortie et qui tente de calmer le jeu en proposant des législatives anticipées, et Juan Guaido, l'autoproclamé, qui veut rallier l'armée à ses côtés. Vous êtes à Caracas. Bonsoir, Sacha Coleman.
Bonsoir.
L'appel à manifester a-t-il été entendu?
Ah oui, pour l'instant, pari réussi pour Guaido. Les Vénézuéliens sont descendus dans la rue. Alors, ils ne sont pas descendus tout seuls. Ils sont descendus avec des sifflets, des casseroles, des klaxons. Ils ont bloqué les rues. Ils se tiennent debout, droit. Ils ont chanté, crié. Ils ont fait du bruit. Un vrai tintamarre. Et s'ils se font entendre, et s'ils se sont fait entendre, eh bien, c'est pour demander aux militaires de changer de camp, d'arrêter de suivre Maduro et de croire que la démocratie que propose Guaido est possible. Mais ce qui est vraiment touchant, ce sont les témoignages. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai entendu les mots libertad, libertad, liberté, mais aussi democracia, démocratie. Il y a Marie-Thérèse, 82 ans, au sourire magique de douceur, qui rêve de libertad. Il y a Mario avec son affiche qui croit que la liberté est possible et qu'il sera capable d'ouvrir les yeux des militaires fidèles à Maduro. Paris réussit pour l'opposition donc, mais déjà un autre rendez-vous se profile avec la grosse manifestation de samedi. Là, il sera question et il sera consacré à l'ultimatum pour l'ultimatum des Européens que les Vénézuéliens veulent soutenir.
Sacha Coleman en direct de Caracas avec Gilles Brière à Washington. Donald Trump a félicité Juan Guaido par téléphone pour son arrivée historique dit-il, à la tête du pays. À Paris, le Quai d'Orsay estime que la proposition de législative anticipée de Maduro ne répond pas à la demande européenne d'une élection présidentielle. Deux journalistes français de l'émission Quotidien de TMC ont été arrêtés hier alors qu'ils filmaient le palais présidentiel à Caracas. Combien étaient-ils hier dans les deux embarcations qui ont chaviré entre Djibouti et le Yémen? Plus de 100, sans doute. Le double naufrage a tué 38 migrants officiellement pour l'instant, mais des dizaines d'autres sont portés disparus. Ils allaient chercher du travail dans la péninsule arabique. À Rome, le chef du gouvernement, Giuseppe Conte, annonce un accord avec 6 pays, dont la France, pour accueillir les 47 migrants bloqués depuis 12 jours en mer sur le navire Sea-Watch. Theresa May est engagée dans un nouveau bras de fer avec Bruxelles sur le backstop nord-irlandais. Cette clause censée éviter le retour d'une frontière entre Irlande et Irlande du Nord après le Brexit, clause que ses députés lui ont demandé hier soir de renégocier, mais dont l'Union ne veut pas entendre parler. Comme elle n'envisage pas de sortie sans accord, c'est ce que dit le négociateur en chef Michel Barnier au micro d'Angélique Bouin.
Pour nous, l'accord de retrait est et reste le meilleur et unique moyen d'assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni. Et cet accord ne sera pas renégocié. Ce qui est en jeu, c'est évidemment la protection de tous les consommateurs et de toutes les entreprises de l'Union. Je vais le dire plus concrètement encore. La décision britannique de quitter l'Union, le marché unique et le marché intérieur, a une conséquence pratique. C'est que toute marchandise, tout animal vivant, tout produit d'origine animale ou végétale qui rentre en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne, entre non seulement en Irlande du Nord et en Irlande, rentre dans le marché unique. Dans le marché unique de vos pays, nous devons cette protection à tous les consommateurs, 500 millions aujourd'hui avec le Royaume-Uni et 22 millions d'entreprises, nous devons cette protection à tous ceux qui font travailler et vivre le marché intérieur.
C'est le premier match du FC Nantes à domicile depuis la disparition d'Emiliano Sala, son buteur argentin parti pour Cardiff mais dont l'avion n'y est jamais arrivé il y a 10 jours. Des morceaux de siège qui viennent probablement de l'appareil ont été retrouvés sur une plage de Surtainville dans la Manche. Alors au stade ce soir face à Saint-Étienne, bonsoir Guillaume Batin.
Bonsoir Sébastien.
Les supporters vont rendre hommage aux joueurs.
Alors on est 2 heures avant le coup d'envoi et déjà ambiance particulière autour du stade de la Beaujoire. Pas un bruit, pas d'effusion, pas de cris ni de chants. Les supporters sont calmes et silencieux comme recueillis pour rendre hommage à ce joueur qu'ils adoraient.
Salah, c'était Salah quoi. C'était un grand joueur, c'était super mec. En fait, il était aussi proche de ses supporters comme ça, très abordable.
C'est quelqu'un que j'ai rencontré à Carquefou, comme ça, dans la rue. Il m'avait vraiment touché. Et puis, je pense que c'est un peu pour lui rendre hommage et pour avoir un souvenir quand même de lui, de son passage à Nantes.
Bon, ça fait 3 ans et demi qu'il était au club et forcément, il nous a tous touchés. Et c'est un hommage qu'on peut lui rendre de floquer notre maillot et avoir ce souvenir de lui.
Bon, on ne peut pas oublier un joueur comme ça. Il va laisser un vide dans le club pour même tous les supporters. Quoi. C'est inexplicable. On est tous malheureux quand même.
En entrant dans leur stade préféré dans quelques minutes avec quelques supporters venus exprès de Cardiff au Pays de Galles à destination du petit avion, eh bien ils devront attendre les supporters pour voir le visage souriant d'Emiliano que j'ai pu apercevoir quelques minutes imprimé sur une base géante avant d'être soigneusement replié. Sur le panneau publicitaire situé juste derrière, il y a ces mots en espagnol, animo emi en vert sur fond jaune, les couleurs nantaises, courage emi que l'on reverra aussi sur les maillots, dans le dos, sous les numéros. Dans les tribunes installées à ma droite dans la trentaine de rangées de la Brigade Loire, il y a de longs rubans de plastique posé horizontalement aux couleurs de l'Argentine, la patrie d'Emiliano Sala. Un tifo géant aussi organisé par le club est en préparation de l'autre côté, dans l'autre virage. Et puis les joueurs nantais à l'échauffement porteront un t-shirt sur lequel est inscrit « Je t'aime ». Et mis en revanche, pas de minute de silence, pas d'applaudissements à la demande de la famille Sala parce qu'elle tient à garder espoir malgré cette mauvaise nouvelle, ces débris retrouvés sur les côtes françaises.
Guillaume Batin en direct de Nantes. Le joueur de foot le plus cher de l'histoire est-il aussi le plus fragile? On se pose la question avec ce nouvel arrêt pour blessure de la star brésilienne du PSG Neymar. Pas d'opération au pied droit comme l'an dernier, mais il ne devrait pas retrouver les terrains avant 10 semaines, d'après le club de la capitale. C'est-à-dire que pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, si toutefois ses coéquipiers s'imposent en 8e face à Manchester United. Sur son compte Instagram, Neymar promet la victoire après sa blessure. On suivra ça. Et puis, on connaît le podium des Bocuse d'Or, l'un des plus prestigieux concours de la cuisine. Le Danemark l'emporte devant la Suède et la Norvège. La France emporte tout de même un prix spécial pour sa charte de coquillage, l'un des deux plats du chef français Mathieu Otto. C'est un clin d'œil au chef Joël Robuchon qui est mort l'été dernier.
Et bon ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup Sébastien Paour. On se retrouve demain. Téléphone sonne spécial avec Édouard Philippe. C'est dans un instant. Vos questions, vos dialogues avec le Premier ministre. Ça commence juste après la météo.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Via Santé, la mutuelle qui aide ses adhérents à prendre soin de leur santé. Et vous, comment ça va?
Sébastien Léas, encore des averses pour cette nuit et même de la neige.
Oui, on a déjà des averses de neige actuellement en Bourgogne, mais aussi entre la Picardie et l'Île-de-France. Et cette nuit, ces averses neigeuses vont se décaler entre le Grand Est et Auvergne-Rhône-Alpes. Les averses seront plus fréquentes sur le Massif central, notamment sur l'Aveyron, qui reste en vigilance orange pour neige-verglas. Demain matin, quelques averses toucheront encore la façade Est en début de journée avant de s'estomper. Entre les frontières du Nord, le Berry et les Pays de la Loire, les nuages bas seront fréquents demain matin. Et comme les températures de la nuit vont passer sous la barre du 0 degré sur la moitié nord, il faudra aussi faire attention sur les routes qui seront très glissantes par regel.
Et sinon, comme souvent, la pluie reviendra par l'ouest.
Effectivement, dès le matin, il va pleuvoir entre la Bretagne et l'Aquitaine, puis cette perturbation va s'engouffrer l'après-midi jusqu'en Bourgogne, aux Préalpes et au Languedoc. Les pluies seront localement soutenues, mais on attend surtout à nouveau de la neige demain après-midi et demain soir entre la Normandie, le Nord parisien, les Hauts-de-France et les Ardennes. Localement, on pourrait avoir une couche de 2 à 5 cm de neige. De la neige est aussi attendue, évidemment, en montagne, mais c'est surtout en arrivant sur les Alpes à partir de la nuit suivante que les quantités seront le plus importantes. Cette perturbation s'accompagnera tout de même d'un être doux sur l'ouest et le sud-est, avec des maximales affichant 6 à 14, voire 15 degrés demain après-midi. Mais de l'air froid va résister sur le nord et le nord-est, avec seulement 1 à 6 degrés demain après-midi.
Sébastien Léas de Météo France, merci.